Bonjour, ici Axel. Bienvenue pour ce deuxième épisode des Entretiens du Petit Peuple entre grandes personnes. Il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion d'être photographe sur le GN Pyhäjoen Perheelliset organisé à Helsinki et j'ai rencontré une joueuse, Riikka, qui est aveugle de naissance. Ça m'a surprise parce que j'ai réalisé que c'était la première fois, en fait, que je rencontrais une personne non-voyante en jeu de rôle grandeur nature. Et tout bien considéré, je n'ai en définitive pas croisé beaucoup de gens en situation de handicap visible. Cette rencontre m'a donc amené à reconsidérer cette question qui tournait en arrière-plan de mon cerveau depuis quelque temps. Au-delà des discours sur l'inclusivité, que faisons-nous vraiment pour rendre nos gènes accessibles? Pour discuter de ça, j'ai invité Cécile. Mais d'abord, écoutons un extrait de la chanson qu'elle a choisie. Il s'agit de People Are Strange des Doors, reprise par Johnny Hollow. Alors bonjour Cécile. Alors Cécile Puel, tu es GNiste depuis plus de 10 ans. Tu joues, tu organises occasionnellement et tu es toi-même en situation de handicap. Tu es également féministe et tu t'intéresses aux questions d'accessibilité des personnes en situation de handicap, mais pas seulement puisque tu t'intéresses à tout type de discrimination, capacitisme, racisme, sexisme, pardon, classisme, discrimination des personnes LGBT, queer, etc. Concernant plus spécifiquement les handicaps, puisque c'est la question que j'ai retenue aujourd'hui pour cet entretien, j'ai l'impression qu'ils se situent dans un angle mort de la société, et notamment du GN. Peu d'organisateurs et d'organisatrices mettent en avant dans leur lettre d'intention ou la description de leur jeu la présence ou non de toilettes adaptées, l'état du terrain, la possibilité d'avoir un chien guide, etc. En France, on a même très rarement de safe room, c'est-à-dire de pièces hors jeu où les personnes qui rencontrent des difficultés, notamment psychologiques, mais pas seulement, peuvent se réfugier. Donc il y a la question de la logistique qui pour moi est assez symptomatique de cet angle mort, mais elle n'est pas seule, puisque si cette question de prise en charge des personnes en situation de handicap est importante, là je parle de handicap visible ou invisible, physique ou psychique, l'accessibilité est loin de s'arrêter là. Il faut considérer là aussi la question notamment du casting. Par défaut, il n'y a pas de prise en charge des personnes en situation de handicap, ce qui risque de mener à des rôles stéréotypés et à l'enfermement du joueur ou la joueuse dans son handicap, etc., même en GN. De fait, j'ai l'impression que les problématiques sont multiples et qu'elles sont surtout ignorées. Le manque d'information des joueuses et des orgas valides redouble d'ailleurs le problème en introduisant des difficultés d'interaction, des comportements involontairement discriminants, une incapacité, pardon, à juger des moyens d'assurer l'immersion et la sécurité de tous, etc. Enfin bref, il y a du boulot. Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, déjà pour commencer, je voudrais revenir sur la quantité de joueurs et joueuses en situation de handicap. Ceux en situation de handicap visible sont en effet assez rares. Moi, j'ai croisé une personne en fauteuil roulant. Bon, par ailleurs, c'était un réac sexiste, donc on n'est pas vraiment devenus amis. Une personne avec un appareillage, un malentendant avec un appareillage visible. Mais sinon, la grande, grande majorité des personnes que je connais qui sont en situation de handicap, ce sont des maladies invisibles. Et ils sont beaucoup plus nombreux que les valides le pensent. Nous, on se repère entre nous, parce qu'on en discute entre nous, parfois sur des groupes ou par des petits détails. Mais voilà, c'est vrai que je pense que les valides ne se rendent pas compte à quel point nous sommes déjà nombreux. Donc les maladies invisibles que j'ai pu noter, c'est qu'il y a des gens qui ont une maladie de Crohn, des gens avec de l'endométriose qui peut être aussi handicapante, des lupus. Moi-même et quelques autres avons des maladies proches ou identifiées comme étant le syndrome d'Ehlers-Danlos. Voilà, donc toutes ces maladies-là provoquent pour certaines des douleurs, d'autres des gros problèmes digestifs, des gros accès de fatigue, mais sont rarement visibles, sauf éventuellement quand on se balade, comme moi, avec une canne pour s'aider à marcher.
Du coup, là, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, en tant que valide, on se rend très très peu compte de l'impact des handicaps divers dans la société, puisqu'en étant non concerné, on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde parce qu'on a le cliché en fait de la personne en fauteuil roulant, alors que les personnes effectivement en situation de handicap visible, qui sont clairement identifiées de l'extérieur comme ayant un handicap, ça peut être par un fauteuil, ça peut être par une canne blanche, ça peut être par tous ces signes-là qu'on associe spontanément au handicap. En fait, ces personnes, elles sont même minoritaires parmi les personnes en situation de handicap, c'est ça? Il y a beaucoup plus de handicaps dits invisibles, donc on ne peut pas déceler au premier coup d'œil.
Je n'ai pas d'idée des chiffres, ni sur la quantité d'handicaps visibles, invisibles parmi la population handicapée, ni de la quantité de personnes en situation de handicap chez les hygiénistes. Mais en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que parmi les hygiénistes que moi je connais, il y en a vraiment énormément. Ce serait dur de donner un pourcentage, mais. Enfin, c'est une part non négligeable et je pense vraiment beaucoup plus nombreuse en effet que ce que les valides pensent. Donc oui, il y a une illusion que les personnes en situation de handicap sont une toute petite minorité dont du coup il n'y a pas forcément besoin de tenir compte, alors qu'en fait nous sommes extrêmement nombreux et bon, ben, pour le moment quand les choses ne sont pas adaptées. On se débrouille par nous-mêmes, on contacte les organisateurs, qui souvent sont de très bonne volonté, une fois qu'on les met devant face à des questions concrètes, mais n'y ont pas pensé avant parce qu'il y a une ignorance, un manque de culture par rapport au handicap dans la société en général, et donc aussi chez les organisateurs.
D'ailleurs, on parle de situation de handicap. On ne parle pas de handicap. Je ne sais pas si toutes les personnes qui écouteront cette émission sont familières avec cette distinction qu'on a un peu tendance à oublier, quoique de moins en moins, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux vite fait faire un petit topo sur pourquoi est-ce qu'on est en situation de handicap?
Alors, on parle de situation de handicap car c'est l'inadéquation entre les caractéristiques de la personne et son environnement qui crée le handicap. Typiquement, à l'époque où les lunettes n'existaient pas, quelqu'un d'extrêmement myope était malvoyant, était donc handicapé. Maintenant, on a des lunettes et donc cette personne n'est plus handicapée. Bon, c'est pas toujours très pratique d'avoir des lunettes quand il y a de la pluie ou de la buée, mais c'est vraiment un inconvénient minimum et on ne considère plus les myopes comme étant en situation de handicap. Donc, toutes les maladies, toutes les particularités qui créent un handicap sont à prendre en compte par rapport au contexte, le contexte d'une société qui n'est pas adaptée. Avec le cas typique de la personne en fauteuil roulant, il existe aujourd'hui des fauteuils roulants électriques qui se déplacent très très bien et avec un tel équipement, une personne en situation de handicap pourrait théoriquement se déplacer partout et avoir la même mobilité qu'une personne qui a l'usage de ses jambes. Sauf qu'en fait, il y a des marches partout, des trottoirs, des difficultés de terrain qui font qu'en fait que ce n'est pas possible. Et donc, cette personne, malgré les progrès de la technologie qui devraient réduire son handicap, est toujours en situation de handicap à cause de l'inadaptation du mobilier urbain.
En GN, ça se traduit concrètement comment, cette situation de handicap? Dans quelle mesure l'environnement du GN enfin, bien sûr, c'est un petit peu vaste, puisqu'il y a bien sûr différents terrains, différentes infrastructures possibles, mais quels sont les soucis que tu rencontres, toi, généralement, quand tu vas en GN et qui peuvent être sans doute palliés par une information préalable, en fait, qui font que les organisateurs et organisatrices se rendent auront peut-être davantage compte des problèmes suscités par l'environnement du GN.
Alors, bon, déjà, en effet, une information claire sur le cadre du jeu, c'est quelque chose qui n'est pas encore au point. Nous reviendrons peut-être là-dessus plus tard. Quelles sont, moi, les difficultés que je peux rencontrer? Donc, moi, je ne peux pas rester debout très longtemps et rester assise sur une chaise me fait assez vite mal. J'ai besoin de pouvoir m'asseoir sur quelque chose de mou, un canapé, un fauteuil. Et cela, donc, cela dépend énormément du type de site. Et l'information, donc, n'est pas toujours communiquée. Il y a, donc, je ne peux pas marcher beaucoup. Donc, les jeux où il faut parcourir des grands terrains, je n'y ai pas accès. J'ai des difficultés de sommeil, donc les jeux où on est réveillé en milieu de nuit, je n'y ai pas accès non plus. Après, je dirais qu'il y a les jeux auxquels je n'ai pas accès parce que cela correspond à quelque chose qui est vraiment intrinsèque au jeu et ce serait dommage de le changer à mon sens juste pour s'adapter à moi parce que cela changerait trop le sens du jeu. Typiquement, je pense à certains jeux, un jeu un peu survivaliste où il faut crapahuter dans la forêt. Bon, ben, je n'y ai pas accès, mais va pas changer. Mais c'est le cœur du jeu, donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut changer. Et il y a d'autres jeux qui posent des difficultés, tout simplement parce qu'on n'a pas pensé à prendre ça en compte. Donc là, typiquement, faire en sorte qu'il y ait possibilité de s'asseoir dans chaque pièce, c'est pas forcément très compliqué. Bien informé sur les caractéristiques du site utilisé, dire s'il y a des escaliers, etc. Ce n'est pas bien compliqué, ça améliore l'information et l'accessibilité. Il y a un exemple qui est cité dans l'excellent article d'Élisée Mathieu sur électrogène qui s'intitule GN et handicap, comment rendre notre activité plus inclusive, de quelqu'un dont le handicap était quelque chose auquel on ne pense pas souvent, le daltonisme, une personne donc qui ne distingue pas certaines couleurs entre elles. La plupart des daltoniens, c'est le rouge et le vert qu'ils ne distinguent pas, mais il y a plusieurs types de daltonisme. Et il y avait un système de règles qui utilisait les couleurs rouge et verte. Alors que, et donc là, c'était quelque chose d'artificiel qui aurait pu facilement être changé sans changer le sens du jeu. Par exemple, en utilisant ce qu'il proposait, une double signalisation, c'est-à-dire en plus de la couleur, faire aussi un petit symbole, une croix et un rond, par exemple. Ça permettait d'esquiver le problème et de rendre le GN plus accessible par rapport à cet handicap spécifique.
Cet exemple du daltonisme, je le trouve assez parlant parce que le rouge et le vert sont vraiment des codes couleurs extrêmement utilisés dans notre société. Alors que le daltonisme, c'est quasiment 10% des hommes, c'est-à-dire une portion non négligeable de la population, qui vont bien sûr être daltonisme à divers niveaux. J'imagine que tout le monde n'a pas autant de problèmes avec la distinction des couleurs. Mais voilà, c'est quelque chose qui est invisible, qui est répandu et qui est dramatiquement ignoré en fait par les structures. Et c'est vrai qu'en tant qu'orga, il y a des choses qu'on ne pense même pas à mettre en place. Par exemple, j'ai la sensation, et en tant qu'orga fautive aussi, hein, en tant que personne qui fait partie de la scénaristerie du petit peuple notamment, où on essaie de faire des efforts, mais où forcément on ne sait pas tout. On pense rarement au final, maintenant je vais y penser, je pense, mais avant ce n'était peut-être pas le cas, on pense rarement à préciser le degré d'accessibilité des toilettes. On pense à préciser les points d'eau, on pense rarement à préciser si le terrain est très escarpé ou est-ce qu'on peut y circuler facilement. Est-ce que le terrain, finalement, oppose une résistance aux individus qui sont dessus, parce qu'en tant que valide, on ne se rend pas vraiment compte.
En effet, il y a un gros problème de communication actuellement des organisateurs qui n'est cependant pas du tout le fait d'une mauvaise volonté. En général, à chaque fois que nous les contactons, donc nous, j'inclus les différentes personnes en situation de handicap, ils essayent au mieux de trouver des solutions, etc. C'est simplement, ils n'y ont pas pensé parce que, comme je le disais, il y a une inculture par rapport au handicap dans la société qui se traduit aussi dans le GN. Mais j'ai noté depuis assez peu de temps, depuis peut-être un an, des légers progrès dans les notes d'intention où il y a un petit peu plus de précision. C'est pas toujours exhaustif, il y a souvent des points qui sont oubliés. Moi-même, je pense que j'en oublie quand j'écris des notes d'intention, hein. C'est difficile d'être exhaustif, mais qui essaye voilà, de prévenir. Donc déjà sur les thèmes difficiles à aborder, ça c'est quelque chose sur lequel on insiste depuis longtemps, donc ça commence plus à entrer dans les habitudes, et donc qui est important pour les personnes qui ont des traumatisme par rapport à certains thèmes, mais aussi donc les aspects plus physiques, en me disant qu'est-ce qui va être demandé physiquement aux joueurs et aux joueuses. Des précisions sur le site. J'ai vu par exemple un GN préciser bon ben qu'il y avait un escalier. Rien que déjà de l'avoir écrit, c'est un Pour moi, c'est un progrès parce qu'avant, enfin, les organes ne prévenaient pas de ce genre de choses. Donc voilà, ça se fait tout doucement, mais je pense qu'on va dans la bonne direction sur la question de l'information et de la communication de la part des organes.
C'est une bonne nouvelle, on va essayer d'aller dans cette direction et peut-être aussi de laisser reposer un petit peu moins la responsabilité sur les personnes en situation de handicap qui sont obligées d'aller dire aux organes de. Donc, effectivement, si les organisateurs commencent à prendre des initiatives, bah, c'est très positif et j'espère qu'on va continuer sur cette voie-là. Alors, tu fais une différence entre plusieurs types de jeux. Tu as dit. Il y a des jeux qui sont inaccessibles par défaut, c'est-à-dire finalement les organisateurs ne sont pas posés la question alors que ça serait facile de les rendre accessibles. Et il y a des jeux qui sont inaccessibles par design, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as des exemples ou est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus, s'il te plaît?
Par design, j'ai déjà évoqué les cas des jeux survivalistes. Récemment, quoi est-ce que comment il s'appelait le jeu d'expérience sur des armes, jeux de JC, LARPin?
C'est Nexus ou pas du tout?
Oui, voilà. C'est un jeu qui m'aurait fait très envie, mais qui était totalement inaccessible parce qu'il est physiquement dur. Et le fait que ce soit physiquement dur participe à mettre les joueurs et les joueuses dans une condition psychologique, elle aussi dure. Et donc, pour moi, c'est vraiment le design du jeu qui fait que c'est inaccessible aux personnes en situation de handicap, mais je ne pense pas qu'il faille changer quoi que ce soit, car des retours que j'ai eus, ce design atteint l'objectif fixé pour ce jeu, créer l'expérience qu'il veut créer. Et donc, bon, ben, tout n'est pas accessible à tout le monde, c'est comme ça, et je ne suis pas pour supprimer les jeux qui sont pas accessibles à tout le monde. Ensuite, parfois, ce sont juste des rôles. Par exemple, là, je viens de me préinscrire sur un jeu 17e siècle dans lequel il y a des duellistes et où les organisateurs ont tenu à ce que les hommes comme les femmes puissent avoir accès à des rôles de duellistes. Et bon, moi, ça aurait été un de mes fantasmes de jeunesse de jouer une duelliste. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est comme ça, ben j'ai demandé à jouer un autre personnage. Mais le jeu étant ambiance KPDP, on ne va pas supprimer la présence de duelistes sous prétexte que tout le monde ne peut pas les jouer. À l'inverse, donc des choses où ou des gènes qui sont inaccessibles par des petites erreurs, enfin petites erreurs, c'est pas forcément le bon terme, par des petites choses qui auraient pu être modifiées. Alors il y a souvent la question de la nourriture, parce que le handicap, il y a énormément de handicaps qui provoquent des problèmes de digestion. Là, j'ai parlé de Crohn, de l'endométriose, ou moi-même de la syndrome de l'air dans l'os, qui provoquent des intolérances alimentaires. Ensuite, il y a des gens aussi qui ont des régimes alimentaires par choix, et ces personnes-là aussi doivent être respectées dans leur choix. Et donc, pour ça, en fait, c'est pas si compliqué que les omnivores le pensent, de faire des régimes, de cuisiner des choses un peu plus adaptées aux différents régimes. Mais simplement, ils n'y pensent pas. Ils ont prévu un plat unique, une tarte ou je sais pas quoi, où il y a de tout dedans. Et du coup, plein de gens ne peuvent pas manger puisqu'il y a chacun aura un élément qu'il ne peut pas manger. Alors qu'en faisant des choses séparées, par exemple du riz d'un côté, des légumes de l'autre, la viande encore à part, alors oui, ça fait trois casseroles, c'est un tout petit peu plus de travail. Mais bon, ça en vaut la peine puisque ça permet ainsi à tout le monde de manger. Moi, j'ai un jeu sur lequel ils avaient mis des produits laitiers absolument partout. Alors que je suis intolérante aux produits laitiers. Donc, je n'ai quasiment pas pu manger et on m'a donné à manger des œufs, tout le GN. J'ai eu des omelettes, j'ai eu des œufs durs, j'ai eu des œufs brouillés. J'ai mangé que de l'œuf pendant 3 jours. Après, je n'ai plus pu manger de l'œuf pendant 6 mois tellement ça m'en avait dégoûté. J'essaye de réfléchir à d'autres exemples. Bon, il y a de GN ou ce sont des petites choses qui pourraient changer l'accessibilité. Là, tout de suite, je n'en vois pas trop. C'est souvent de la communication en amont qui permet de prévenir les problèmes, en fait, et qui est manquante, je dirais. Après, voilà, mettre des chaises dans chaque pièce, ce n'est pas bien difficile, et les choses de ce genre. Voilà.
Concernant le fait que des jeux puissent être accessibles à différents publics et donc que ça n'est pas si grave si certains jeux ne te sont pas accessibles, c'est une opinion qui, j'ai l'impression, divise. Par exemple, donc je faisais des recherches sur ce sujet-là et je suis tombée sur un article sur nordicLARP.org qui s'appelle The Absence of Disabled Bodies in LARP, donc l'absence de corps handicapés dans le GN. Donc là, elle parle de handicap visible de Shoshana Kessock. Et elle, c'est quelque chose qu'elle dénonce, en fait, de se dire, finalement, les valides pourraient participer à 100% de jeux, potentiellement, alors que, bien sûr qu'ils ne vont pas participer à 100% de jeux, mais quand on fait des jeux inaccessibles aux personnes avec des handicaps, on les empêche de choisir d'accéder ou de ne pas accéder à ces jeux. C'est-à-dire qu'on limite de facto la portée du choix du joueur ou de la joueuse. Et c'est quelque chose qu'elle dénonce, pas d'une façon coercitive, on va dire, bien sûr, hein, c'est pas quelqu'un qui va dire faisons interdire tous les GN qui n'ont pas un degré d'accessibilité suffisant, mais n'empêche, c'est un horizon qu'elle essaye de vraiment repousser.
Alors oui, j'ai dit ce n'est pas si grave, ce n'est pas si grave à une condition sine qua non, c'est qu'il y ait une diversité de GN qui fasse que les personnes en situation de handicap aient quand même encore du choix. Alors là, je ne peux m'exprimer que de mon propre point de vue. Moi, avec l'handicap que j'ai l'impression d'avoir quand même encore accès à un certain nombre de jeux. Des personnes avec des handicaps plus graves ou différents ont sans doute accès à moins de GN et seront donc pas d'accord avec moi là-dessus. Et sans doute faut-il réfléchir à plus de GN, plus de diversité de GN qui soit plus accessible à ces personnes pour qu'elles aussi aient du choix.
Il y a notamment un aspect de ce que tu as dit tout à l'heure qui m'interpelle. Tu as dit C'était un rêve de jeunesse de jouer une duelliste. Maintenant, je ne peux pas. Et en fait, en GN, on est habitué à jouer des personnages qui sont loin de nous au final. Même si moi, je joue une duelliste, mes points de combat, on va dire, ou la capacité de mon personnage à se battre peut être largement supérieure à mes capacités à moi de me battre. Et finalement, c'est pas quelque chose qui pose un problème. Or, on a l'impression que quand on parle de handicap, finalement, les valides sont libres de jouer des personnages moins valides qu'eux, mais on ne pense pas au fait que des personnes en situation de handicap puissent jouer des personnages plus valides qu'eux.
En l'occurrence, si, moi je joue très souvent, enfin quasiment toujours, des personnages plus valides que moi. Je préviens à l'avance les autres joueurs que bon, bah, j'ai besoin de m'asseoir et que ce n'est pas mon personnage, c'est moi joueuse, mais j'ai déjà joué sur un GN une danseuse professionnelle internationale. Je joue souvent des gens qui sont valides, on va dire, normalement, dans la moyenne. Là-dessus, mon handicap est suffisamment faible pour que je ne sois pas enfermée dans des rôles de personnages qui... Des personnages de personnes âgées ou de personnes également handicapées, comme c'est quelque chose qui pourrait arriver. Plus une crainte que quelque chose que j'ai constaté. Mais pour le moment, enfin, là-dessus, c'est un problème qui ne m'a pas l'air trop présent. On peut jouer des personnages plus valides, c'est juste qu'on ne pourra pas faire de performance physique correspondant à ce que notre personnage pourrait faire. Typiquement, là, sur mon histoire de dueliste, j'ai demandé si à tout hasard, il n'y avait pas un personnage d'une ancienne dueliste qui a renoncé à son épée, pour être quand même un petit peu dans le type de personnage que j'avais envie, sans avoir à fournir la prestation physique que je ne pourrais pas fournir.
Concernant ce fait-là de jouer des personnages avec des validités différentes, justement, j'ai un joueur en situation d'obésité avec qui je discutais l'autre jour qui m'a dit qu'il avait extrêmement peur, en fait, en s'inscrivant à un jeu, de finir dans un rôle qui est un rôle de gros, qui est un rôle qui serait intrinsèquement lié à sa condition physique ou à l'image stéréotypée qu'on peut avoir de son handicap à lui. Et cette question des rôles, finalement, comment elle est gérable par les orgas et aussi par les joueurs et joueuses?
Alors là, il y a une prise de parti, je dirais presque philosophique, des organisateurs et organisatrices à la base, à savoir prendre en compte ou non le physique au sens large, l'apparence physique comme les capacités et incapacités physiques pour le casting. J'organise un jeu pour lequel je ne demande pas les photos. Avant de faire le casting. Ainsi, je ne suis pas du tout influencée par leur apparence, parce que mon but est de faire jouer aux gens ce qu'ils ont envie de jouer, plutôt que ce qui leur correspondrait le mieux si c'était une pièce de théâtre. Parce que nous ne sommes pas, ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est un parti pris, mais il y a d'autres organisateurs qui voient le JN plus comme peut-être une performance artistique. Et donc, ils vont mettre dans chacun des rôles des joueurs et des joueuses qui, de leur point de vue, correspondent physiquement et mentalement aux personnages qu'ils ont écrits. Et bon, ben là, ensuite, je dirais, ça reste quand même, quand quelqu'un a écrit un jeu, il a fait un effort, donc il a le droit de quand même d'avoir éventuellement certaines exigences. Après, j'ai l'impression, enfin, je pense que heureusement, il y a suffisamment de jeux qui ne reposent pas sur cette idée d'adéquation entre le physique et le personnage pour que tout le monde y trouve son compte. Mais bon, peut-être que je me fais des illusions. C'est un autre une chose qui m'a interpellée, c'est sur la représentation des personnages handicapés. En GN, bon, on le sait, quiconque est militant sait que la question de la visibilité, la représentation est importante pour permettre de faire savoir que ces gens existent. Et donc, dans les GN, j'ai remarqué que quasiment la totalité des personnages en situation de handicap qui sont présents sont des personnages qui ont subi un accident ou une blessure. J'ai moi-même écrit un personnage comme ça, hein. Après, bon, c'était dans le contexte de suite à la Première Guerre mondiale, donc il y a quand même une certaine logique à ça. Mais qu'on ne trouve quasiment jamais de personnages ayant un handicap visible ou invisible lié à autre chose. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas croisé. Après, certains pourront me rétorquer, est-ce pertinent de pour l'intérêt d'un personnage de préciser bon, qu'il a telle maladie, est-ce que ça va apporter quelque chose à son jeu ou pas? Je n'ai pas forcément de réponse à ça, mais je pense que ce serait quand même important pour la visibilité et la représentation qu'il y ait un petit peu plus de variété dans les personnages, que les personnages ne soient pas valides par défaut, sachant que dans la société, les valides représentent certes la majorité, mais une majorité pas si écrasante que ça, que nous sommes extrêmement nombreux et nombreuses aussi.
Par exemple, quels sont les est-ce que tu pourrais donner là un peu à chaud un archétype de personnage que tu aimerais voir présenté en GN, sachant que il peut y avoir il y a des bien entendu être en situation de handicap, c'est aussi quelque chose qui c'est pas une donnée accessoire de quelqu'un, ou ça peut l'être, mais en tout cas ça peut aussi faire des choses très intéressantes dans un personnage, et ça peut être quelque chose qui peut pour les joueurs et joueuses être très intéressant. Quand en tant que valide, je suis amenée à jouer à un personnage qui a une blessure ou ce genre de choses pendant suffisamment longtemps, finalement, je suis obligée de modifier la façon même dont j'interagis avec mon environnement, et ça, sans être particulièrement, ça va pas changer ma vie, et bien sûr, subir une discrimination de 3 heures en GN, ou jouer un handicap de 3 heures en GN, ça ne rend pas compte de la réalité de ce que c'est qu'avoir un handicap dans la vie ordinaire. Mais n'empêche que ça fait réfléchir sur ce qu'on considère comme acquis. Est-ce que tu penses à un ou plusieurs archétypes finalement de personnages avec un handicap qui pourrait permettre d'apporter quelque chose en termes de pédagogie, en termes d'éducation ou en termes de drama au jeu?
Alors, je ne sais, pour le côté pédagogie, je pense que les personnages qui ont un handicap physique suite à une blessure qui limite leur déplacement, bon, bah, ils ont déjà la pédagogie de sentir ce que ça fait d'être limité dans ses déplacements, même si c'est que pour quelques heures. Et je pense que c'est quelque chose d'important et intéressant. Mais voilà, là, c'est plus pour le côté représentativité. J'aimerais bien que de temps en temps, ces personnages à mobilité réduite ne le soient pas suite à une blessure au combat, car c'est quasiment toujours ça, mais à une maladie dégénérative, une malformation de naissance, voilà, quelque chose d'autre. Ensuite, pour les autres handicaps, c'est tellement varié. Alors, on pourrait, je pense, faire un petit peu plus de personnages qui jouent aussi sur le côté malvoyant, malentendant. C'est un petit peu délicat, mais je pense que ce sont des expériences intéressantes. En même temps, il existe des jeux qui sont entièrement tourné vers ces aspects-là. Je pense qu'il y a, je ne sais plus le nom, un jeu qui a été fait à la BOGN, qui se passe entièrement dans le noir pour expérimenter justement l'absence de vue, quoi. Et donc ça, bon, avec des bouchons dans les oreilles qui font qu'on entend moins bien tout en entendant un petit peu, c'est facile de simuler une surdité partielle. Pour malvoyants, Sans aller jusqu'à quelqu'un qui est totalement aveugle avec des grosses lunettes de soleil très foncées en intérieur, ben ça fait déjà voir moins bien. Donc là aussi, ça ferait expérimenter quelque chose aux gens qui pourrait être intéressant pour eux personnellement, enfin tant qu'expérience. Ensuite, des stéréotypes, des stéréotypes, des archétypes plutôt que j'aimerais voir jouer. Ça, c'est le côté, je prêche pour ma paroisse, mais des gens qui ont une maladie invisible, partiellement handicapante, qui les fatigue beaucoup, qui leur provoque des douleurs, des choses un peu. Enfin, je n'ai jamais vu un personnage qui me ressemble. Et c'est vrai que j'aimerais bien un jour, pas pour le jouer moi-même, mais j'aimerais bien qu'il existe dans les jeux, comme j'aimerais bien qu'il existe dans les fictions, des personnages qui me ressemblent. C'est toujours la question de se sentir représenté.
Concernant la question de la privation sensorielle, j'en discutais l'autre jour avec Riikka, qui est donc la joueuse finlandaise dont je parlais tout à l'heure, qui est aveugle, et elle me parlait d'un GN d'une scène en GN qui pour elle a vraiment été très très forte, très réjouissante en fait, où c'était un GN assez classique où il y avait de l'exploration, etc. Et ils se sont retrouvés dans cette situation où il fallait aller dans une caverne obscure et sombre. Et où, eh bien, elle y allait. Parce que ça ne changeait strictement rien pour elle. Et immédiatement, les personnes valides qui étaient avec elle se sont mises à lui dire, attends-nous, on n'a qu'une seule lampe, en fait, à être véritablement en situation de handicap, très fortement, parce que, ils ne sont pas du tout, du tout. Quand on est voyant, on n'est pas du tout, du tout habitué à être privé de la vue. En fait, on se repose énormément sur ce sens-là, qui est un des sens, les plus. Qui apporte le plus d'informations en fait, sur lesquelles on se repose le plus. Et finalement, elle, son ressenti à ce moment-là, ça a été que ça n'était plus la personne en situation de handicap. Et ça a été quelque chose d'assez libérateur pour elle. Et en fait, c'est quelque chose que, en tant que joueuse aveugle qui joue avec des voyants, parce que ce n'est pas le cas de la plupart, apparemment en Finlande, il y a pas mal de GN pour aveugles, mais finalement peu d'aveugles qui jouent avec des personnes voyantes. Et pour elle, ça a vraiment été un moment d'émancipation où elle s'est dit, ben ouais, en fait, moi aussi, je peux prendre le lead, quoi. Alors que quand c'est une quête d'exploration basique où il faut rentrer dans une pièce et il y a plein de petits machins cachés partout et où il faut lire des livres, ben forcément, elle se sent un peu mise à l'écart.
Oui, bah, c'est une belle démonstration que c'est bien la situation qui crée le handicap. Donc, parce que là, dans ce cadre, elle était dans un cadre obscur. Ce sont les non-voyants ne sont pas handicapés, ce sont les voyants qui le sont. Après, là, elle disait, elle n'avait pas l'habitude d'avoir le lead. C'est peut-être aussi une question de type. De jeu, parce que moi, le type de jeu que je fais, à savoir du romanesque et de l'expérimental, je pense qu'une personne non-voyante aurait accès à un certain nombre de personnages, dont certains pourraient être des leaders, parce que ce sont pas des leaders, physiques, des chefs de groupe d'explorateurs, etc., mais des leaders politiques, des chefs de famille ou des choses comme ça. Et là, je pense que ce n'est pas du tout incompatible avec un handicap sensoriel. Enfin, en tout cas, avec une malvoyance. Peut-être plus avec un handicap auditif, même si là, j'ai déjà eu un joueur qui avait réellement enfin, qui avait donc un handicap qui était malentendant et qui jouait un personnage très important dans un groupe décisionnaire et où finalement il a joué de son handicap et de son importance pour forcer les autres à s'adapter à lui et que ça ne soit pas lui qui s'adapte aux autres. Et je pense que ça devait être aussi assez justifié pour lui.
En l'occurrence, pour finir juste sur cette histoire-là, moi, quand je l'ai rencontré, donc il y a 3 semaines, puisque je viens d'arriver, c'était sur un GN qui est plutôt romanesque, même si c'est pas forcément le terme qu'on utilise là-bas. Et elle rejouait le jeu pour la deuxième fois parce que la première fois, elle n'avait absolument pas réussi à suivre ce qui se passait. Puisqu'en fait, quand il y a même 30 personnes, puisque le Saint gêne d'à peu près une trentaine de personnages, trouver les personnes qu'elle cherche et suivre tout ce qui se passe autour alors qu'il y a un foisonnement permanent de bruit, de son, etc., ça avait été un facteur d'isolement très important pour elle. Et là, elle avait amené une personne pour l'aider, en fait. Ça, c'est une question aussi qui peut être posée aux organisateurs, organisatrices, je pense. C'est-à-dire dans quelle mesure on peut amener des aides extérieures vivantes, entre guillemets. Donc forcément, je pense à, voilà, en l'occurrence, c'était une guide, une humaine, mais ça aurait pu être un chien, ça aurait pu être peut-être d'autres animaux ou d'autres types d'aides. En tout cas, c'est quelque chose que qui est possible, je pense, de demander aux organisateurs, organisatrices, et les organes doivent donc être en capacité de faire en sorte que ça puisse bien se passer pour les personnes qui ont besoin d'aide supplémentaire ou ce genre de choses.
Alors, la première chose à laquelle je pense, avant de répondre à la question directe, c'est, tu disais, elle a eu du mal à reconnaître les gens. Bon, pour moi, c'est une démonstration supplémentaire que les ateliers pré-jeu pour que les personnes qui se connaissent se rencontrent de visu est indispensable. Outre les personnes malvoyantes, il y a énormément de gens qui ont, ça s'appelle déjà agnosognosie, je ne sais plus le mot exact, un problème de reconnaissance faciale, plus ou moins fort parfois, ou simplement une difficulté non qui n'est pas considérée comme un handicap, mais une difficulté à reconnaître les visages. C'est mon cas, même si ce n'est pas handicap, un point que on est handicapant. Et donc voilà, c'est indispensable pour moi de faire un atelier, un speed dating pour que les gens se reconnaissent avant le jeu de toute façon. Ensuite, sur la question de faire venir une aide animale ou humaine, c'est une question que je me suis posée pour le GN que j'organise. Et bon, pour la question animale, ça dépend entièrement du site où ça a lieu pour moi, puisqu'il faut que le site l'autorise. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément du ressort des orgas. Et ce qui me fait penser à un autre problème, en fait, l'accessibilité handicap va parfois être en opposition avec l'accessibilité économique. Choisir un site qui accepte les animaux, où tout soit aux normes handicapées, où il n'y ait pas de difficulté de terrain, ceci, cela. Ce sont souvent quand même des sites qui coûtent plus cher et donc qui ne vont pas être accessibles économiquement aux personnes en situation de handicap y compris, puisque le handicap est une cause de pauvreté. Donc voilà, pour la question de l'aide animale, pour la question de l'aide humaine, elle se pose sous deux angles, je pense. Soit c'est une aide humaine PNJ invisible qui est là juste pour aider, mais ça veut dire que la personne qui vient aider va peut-être un petit peu s'ennuyer. Soit je pense qu'il doit être faisable d'intégrer ça dans le jeu, que cette personne, que la personne soit un autre joueur, un autre joueuse. Et qui ait une proximité avec le personnage qui a un handicap qui justifie d'être avec lui sans pour autant être dans le jeu son aide humaine. Je m'entends, comme ce que je veux dire, c'est que la personne qui a un handicap et qui a besoin d'une aide humaine n'a pas forcément envie de jouer quelqu'un qui a un handicap. Mais ça peut être, par exemple, cette personne peut jouer quelqu'un d'important, un chef. Et son aide humaine peut jouer son secrétaire, son assistant, donc il sera toujours avec. Et ainsi, au passage, lui fournira l'aide humaine en rapport avec le handicap. Ça permet d'intégrer la personne en jeu. Je pense que c'est plus sympa aussi pour tout le monde. Mais après, n'ayant pas eu l'occasion d'expérimenter ni le fait d'avoir une aide humaine intégrée, ni le fait d'avoir une aide humaine PNJ invisible, je n'ai pas de retour sur la question. Mais bon, ce sont les réflexions que j'ai eues sur le sujet pour mon propre GN.
Il y avait une autre thématique que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est la question de l'information des joueurs et des joueuses. Parce que très schématiquement, et qu'on se retrouve en face de quelqu'un qui a un handicap qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, on peut réagir assez mal, en fait. Ça peut être un handicap physique parce qu'on sait qu'il y a toute cette dimension-là oh là là, le pauvre ou la pauvre, qui est très très délétère à mon avis. Et il y a aussi la question des handicaps psychologiques ou psychiques, où très très peu de gens savent comment réagir à quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, par exemple, ou ce genre de choses très basiques et très très désastreuses pour la personne quand ça n'est pas réglé, quand ça n'est pas pris en charge, pardon. Donc réglé, j'irai pas jusque-là. Donc, à ton avis, comment est-ce que les organisateurs et organisatrices peuvent prendre en charge l'information en amont des joueurs et joueuses ou se faire peut-être vecteur d'une information qui serait transmise par les joueurs et joueuses concernés par ces handicaps-là pour faciliter l'immersion et le soin, la sécurité de tout le monde?
Alors, moi, je pense en termes de communication, le rôle premier des organisateurs et organisatrices, c'est d'informer sur leur jeu et l'accessibilité du jeu. Après, sur ce qui concerne les joueurs, joueuses handicapées qui viennent sur le jeu, ils ne peuvent faire le rôle que de médiateurs. C'est-à-dire que ce sont les personnes handicapées qui savent le mieux ce qui est bon pour elles. Donc, ce n'est pas aux organisateurs de donner des instructions prescriptives sur ce qu'il faut faire. C'est là, par exemple, si une personne sait qu'elle fait des crises de panique, elle en a informé les organisateurs. Le rôle des organisateurs, ça va être de venir et de lui dire. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux qu'on en informe les autres joueurs? La personne n'est pas obligée de vouloir en informer les autres joueurs. Qu'est-ce qu'il faut faire si ça arrive? Et ensuite, se faire le relais, voilà, de ces instructions. Parce que, voilà, personne ne connaît mieux son handicap que la personne handicapée.
Ce que tu dis, en fait, comment dire, ça m'appelle, moi, en tant que féministe, enfin, plutôt formée sur des questions de genre. Et finalement, ce qu'il faut faire, c'est toujours s'assurer du consentement de la personne, toujours demander à la personne ce dont elle a envie ou ce dont elle a besoin, et ne pas essayer d'inventer des choses ou de faire les choses à la place des gens ou de prendre la place et de prendre la voix des personnes.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, même sur la partie information accessibilité, j'ai vu des GN dire le jeu n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Visiblement, c'est des personnes qui ne savent pas ce qu'est la mobilité réduite et qui pensent que c'est juste un fauteuil roulant. En fait, il vaut mieux là aussi donner les informations brutes et laisser les personnes en situation de handicap juger de si c'est accessible pour eux ou pas. Les valides ne sont pas dans la peau des personnes en situation de handicap, donc peuvent difficilement savoir ce qui est bon ou pas pour elles. Voilà, donc c'est leur fournir des informations brutes, se faire leur relais, se mettre à voilà demander de quoi ils ont besoin, mais ne pas imposer de choses et ne pas faire de déclarations publiques genre ah au fait tout le monde il faut que vous sachiez que machin bidule a telle maladie sans demander l'autorisation parce que ça peut être extrêmement violent.
Et un conseil que j'aurais envie de donner aux joueurs et joueuses, ce serait de toujours partir du principe que la personne en face est de bonne foi et ne pas juger d'un désengagement du jeu ou ne pas avoir un jugement négatif parce que la personne a peut-être tout simplement besoin de s'asseoir, besoin de calmer une montée d'angoisse, etc. De toujours partir du principe que tout le monde est de bonne foi et de bonne volonté et ne pas risquer d'empirer les choses en se mettant dans une position assez coercitive et où on voudrait que la personne en face corresponde spécifiquement et précisément aux critères que soi-même, en tant que non concerné, on a.
Oui, et c'est là qu'un code de discussion hors jeu, moi j'utilise le main sur l'épaule, permet de régler ça et de bien distinguer ce qui relève du personnage et ce qui relève du joueur ou de la joueuse. Mais enfin le contrat social sur un GN, c'est quand même de faire un minimum confiance aux autres joueurs et joueuses. On peut ne pas faire confiance à leur personnage, mais il faut qu'on fasse confiance aux joueurs et aux joueuses, sinon on ne peut pas construire un jeu ensemble.
Tu utilises la main sur l'épaule, c'est-à-dire?
Quand un personnage pose la main sur l'épaule de quelqu'un d'autre, c'est pour lui parler hors jeu. Ça permet tout simplement d'avoir de brèves apartés hors jeu qui ne soit pas trop voyante, contrairement à quand on annonce hors jeu, blablabla. Là, c'est main sur l'épaule, ça a le même sens, tout en faisant visuellement pour les autres comme si je faisais une petite aparté, mais en même temps, on sait que c'est une aparté qui est hors jeu.
Finalement, il y a tout un arsenal de méta-techniques, de safe word, de choses comme ça qui peuvent tout à fait soutenir l'intégration des personnes en situation de handicap et toute forme de discrimination par ailleurs, et en plus de permettre la sécurité émotionnelle des joueurs et joueuses, quel que soit leur degré de privilège, j'ai envie de dire, ou quelle que soit leur validité. Etc. Je pense que on va pas tarder à arrêter cet enregistrement. Par contre, si les personnes qui écoutent ça sont intéressées par la question des métatechniques et des safe words, etc., je ne saurais que leur conseiller d'aller sur le site de ElectroGN en français ou sur le site de nordiclarp.org en anglais.
Et de mon côté, donc je recommande à nouveau l'article d'Élise et Mathieu sur le site ElectroGN qui s'appelle GN et handicap, comment rendre notre activité plus accessible. L'article a été écrit par des personnes qui sont valides, mais qui ont vraiment fait une grosse recherche sur le sujet. Ils m'ont demandé mon avis aussi avant de le publier. Enfin, je l'ai trouvé. Je trouve. Bien, il pose des tas de bonnes questions. Il est pas prescriptif. Sa démarche, c'est de dire aux organisateurs et organisatrices, posez-vous ces questions-là. Vous voyez ce qui est possible ou pas de faire. Si c'est pas possible, c'est pas possible, mais au moins vous aurez essayé. Et souvent, juste en essayant, on améliore déjà beaucoup de choses.
Merci Cécile Puel d'être venue discuter avec moi sur ce sujet. On se retrouve la prochaine fois pour un autre entretien du petit peuple. Et sur ce sujet-là, par ailleurs, je suis en train d'écrire également un article dans lequel je reprendrai les éléments de cet entretien ainsi que des éléments d'autres entretiens pour essayer de faire un diagnostic global de l'état du GN. Français, du moins, sur ce sujet. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée.
People are strange when you're a stranger. Faces look